L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans LEM, l'émission, le magazine de Radio Évasion qui reprend après la pause des vacances. On retrouve l'Université des sciences et pratiques gastronomiques de Quimper. C'est une association qui défend une alimentation de qualité, pour qui l'alimentation c'est un sujet politique, culturel, pas seulement gustatif. Et quand on dit culture, on a en plus aujourd'hui une bonne nouvelle pour vous. Un nouveau festival s'annonce à Locronan en septembre prochain. Il a pour nom Silence, ça touille. Là, vous sentez qu'on est en plein dans le sujet. Oui, c'est un festival de cuisine et de cinéma. Car oui, notre vision de ce que nous mangeons relève aussi de nos imaginaires, des fictions. Elle est entretenue par de célèbres scènes. On mange beaucoup dans les films français, mais ça arrive aussi dans le cinéma étranger. Et ce festival de cinéma a donc choisi de s'engager dès le début avec à ses côtés l'Université des sciences et pratiques gastronomiques. Alors avec nous aujourd'hui, il y a Christophe Casazza, le président du festival Silence ça touille, et Xavier Hamon pour l'USPG. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Alors ce festival, qu'est-ce que c'est, Christophe Casazza?
C'est un festival pour les gourmands, les gourmets et les passionnés de cinéma en même temps. Donc, puisque le principe, c'est de prendre des films, des documentaires, des courts-métrages et de les associer avec de la gastronomie, de l'alimentation.
Et donc, il y aura aussi des cours de cuisine, vraiment?
Il y aura des ateliers de cuisine avec l'USPG, bien évidemment. Donc, c'était logique qu'on s'entoure de gens qui ont envie un peu de faire les choses comme nous, on les sentait, quoi, et on les pressentait, quoi.
Les films, ça sera des films nouveaux ou ça peut être des films du patrimoine, enfin.
Ouais, il y aura deux styles de films. Il y aura des films nouveaux dans une sélection qui sera en parallèle du festival, donc court-métrage, documentaire et fiction récente. Et en parallèle de ça, on choisit des films, en fait, plus anciens. Comme ça aurait pu être le Festin de Babette, pour le cas, c'est pas le Festin de Babette cette année, mais c'est des films comme ça, anciens, qui vont s'allier avec un thème gastronomique.
Et en gros, combien de films on pourra avoir à peu près sur 3 jours, hein, c'est ça, hein,
23, sur 3 jours, 15, on pourra avoir, une quinzaine de films, quoi, en gros. Une dizaine de films longs-métrages, et beaucoup de courts-métrages et de documentaires, en fait.
Et ce sera à Locronan en plus.
À Locronan, le 23, 24 et 25 septembre.
Un cadre agréable.
Surtout une ville de cinéma, quoi. Et puis il y a eu une trentaine de tournages qui ont eu lieu. C'est pour ça d'ailleurs que moi habitant Locronan, je me suis dit, on va faire à Locronan ce festival, parce que il n'y a pas mieux comme endroit, quoi.
Ah, faut préciser que vous aviez déjà organisé ce festival ailleurs.
On avait fait ce festival en 2004 et 2005 à Dijon. Avec un très gros budget, très très gros festival, avec beaucoup d'invités, beaucoup de stars du monde entier. Et là, on avait envie de faire un truc, un festival beaucoup plus populaire, beaucoup plus social, pour parler d'alimentation, pour parler de comment on mange, comment on peut bien manger maintenant, et surtout et l'animer autour de l'art, quoi. Parce que moi, j'ai une femme artiste peintre, moi je suis là-dedans aussi, j'écris, donc j'avais envie que ce soit une espèce de communion de deux choses que j'aime, c'est la bouffe, moi j'aime bien appeler ça la bouffe aussi, parce que c'est proche, et puis le cinéma.
Le 7e art, en l'occurrence, il y aura peut-être d'autres arts aussi d'ici septembre, vous allez peut-être en rajouter.
Non, il y aura une exposition de photos aussi sur les bars et les cafés, avec une conférence autour de qu'est-ce que c'est que la sociologie des cafés, il y aura des choses aussi comme ça un petit peu. Mais c'est un premier festival, donc on démarre doucement.
C'est ça. Mais de toute façon, vous reviendrez à notre micro en début septembre là, pour nous annoncer quand on sera près du festival.
Avec grand plaisir.
Et là, l'angle va être un petit peu différent. Comment est-ce que vous avez rencontré l'USPG? Je ne sais pas lequel des deux va répondre, si c'est Xavier ou si c'est Christophe.
On a rencontré l'USPG, je ne sais plus d'ailleurs, par Jean-Jacques peut-être.
Par Jean-Jacques
qui est mon voisin. Enfin, mon ancien voisin qui a vendu sa maison depuis, mais lui va s'occuper de tout ce qui est partenaire du festival. Et il m'a dit, tu devrais rencontrer Xavier Hamon. Et j'ai dit, ouais, rencontrons, parce que moi, j'adore rencontrer.
Ben voilà,
donc, j'ai rencontré Xavier Hamon. Et on s'est dit, on a quand même des idées qui sont en concordance. Donc, il y a quelque chose à faire. Et puis, moi, j'avais envie de muscler un peu le festival aussi. Donc, voilà.
Et Xavier, il n'y avait pas tellement de festivals autour de l'alimentation dans le Finistère, finalement vraiment autour de ce sujet
Non, pas à ma connaissance. Il y a parfois des programmations dans les différents cinémas, souvent art et essai. Et de temps en temps, au décours de cette programmation, on parle d'alimentation, mais il n'y avait pas de festival concentré sur ce thème-là, à proprement parler.
Alors, qu'est-ce qui était intéressant, à part le fait que c'était sur l'alimentation pour l'Université des sciences et pratiques gastronomiques
Ce qui nous intéressait, c'était encore une fois, c'est La question alimentaire, on en a parlé plusieurs fois ici, elle tourne beaucoup autour de la politique alimentaire, de la PAC, de la politique agricole, mais aussi des injonctions, de comment on doit manger aujourd'hui, la responsabilité, etc. Et finalement, pour en parler, ça crée autant de barrières et de freins, ou de peurs, ou de craintes, ou de ségrégation, quelque part. Et finalement, l'opportunité du festival, c'est aussi pour nous de côtoyer un autre public, qui vient aussi pour la forme artistique, et qui peut avoir une autre sensibilité, et comment ça se croise. Et moi, le croisement des publics, il nous est très cher, parce qu'effectivement, c'est pas l'histoire l'histoire alimentaire, c'est pas l'histoire des cuisiniers, c'est pas l'histoire des agriculteurs, c'est pas l'histoire... C'est l'histoire de tous, et il faut bien qu'on trouve des lieux de rencontre un peu partout. Donc pour nous, c'est une sacrée ouverture. Et puis, c'est une belle rencontre aussi, parce que voilà, on a besoin aussi de s'ajuster, de se rencontrer, de se connaître, de s'ajuster. Christophe, il n'est pas, voilà, c'est pas lapin de 3 semaines, donc il a aussi tout un parcours sur l'alimentation, sur la gastronomie, sur le vin, et voilà, on s'ajuste petit à petit.
Ah oui, un petit mot de votre parcours, allons-y.
Oh là, mon parcours, vous avez
non,
2 heures.
Non, un petit mot.
Je suis passé par le cinéma, je suis passé par la photographie, je suis passé par la presse, je suis passé par l'écriture, le concept d'émission de télévision. J'ai travaillé sur Surprise, Surprise, même comme scénariste, vous voyez, ça amène pas de terrain. Et je suis devenu après dégustateur vin pour le magazine Goemio pendant 5-6 ans. Et voilà, puis après j'ai monté ma revue qui s'appelle Haute Gouture.
Et elle existe toujours, cette revue ?
Le premier numéro a existé juste avant le Covid. Le Covid nous a fait un peu arrêter, mais on va le reprendre. Ça va être la revue sera un peu le programme du festival, en fait. Moi, je veux faire une revue programme, en fait.
Et voilà. C'était quand même sur l'alimentation, pas seulement le vin.
Le principe était le vin, la gastronomie et l'art.
Ben oui, donc, voilà, association parfaite. Voilà,
exactement.
Bon, qui a existé d'ailleurs dans la peinture. Enfin, c'est pas la première fois que les arts visuels et la gastronomie sont associés, hein, on est d'accord. Alors, qu'est-ce que vous aviez quand vous avez créé ce festival pour le Cronan, en tout cas, quand vous avez commencé à le monter? Quel était votre cahier des charges donc, sur le plan de la cuisine? Alors, je sais pas.
Sur le plan de la cuisine, j'avais envie de me rapprocher de la vraie cuisine, de ce qu'il faut faire, du bien manger, des petits producteurs. Peut-être, pourquoi pas, je dis des petits, mais ça peut être des grands producteurs, mais pourvu qu'ils travaillent bien, pourvu qu'on ait envie de croiser le verre avec eux, de passer des moments, et pourvu que ça reste bien mangé, quoi. Et je me suis dit, on peut toujours faire un festival comme on l'avait fait à Dijon, prendre un très gros budget, prendre une régie publicitaire qui va vous chercher l'argent, où c'est pas notre problème, et faire un beau festival très, très classe, très luxe, avec des voitures et des limousines et tout ça. Mais je me suis dit, mais ça n'a pas vraiment de sens. Et je pense qu'à l'époque où on est maintenant et ce qu'on vit en ce moment, il faut que les choses aient du sens. Et surtout dans l'alimentation, dans ce qu'on mange, dans ce qu'on met dans son assiette, parce que c'est quand même vital.
Et vous-même, vous êtes dans le Finistère depuis combien de temps ?
Moi, je suis depuis 3 ans dans le Finistère, mais c'est toute une histoire. J'ai failli y être depuis 7 ans, puisque j'ai failli acheter une maison au fou il y a 7 ans. Et en fin de compte, c'est toute une histoire avec mes enfants, c'est tout un parcours, parce que... Si vous avez un petit peu de temps, je vous le raconte rapidement, mais en fait, moi, je suis venu ici il y a 7 ans pour m'installer à Le Cronan, parce qu'on avait craqué sur le village avec ma femme, et on avait un projet de ferme communautaire avec les enfants, avec ma fille, et ma fille nous a dit « Mais non, jamais dans le Finistère, t'as vu le temps qu'il fait, c'est horrible, il pleut, nous, on veut faire de l'élevage, mais oui, il fait
c'était
beau au soleil. »
Ouais, c'était de l'élevage, parce qu'une ferme, ça peut être d'accord.
C'était de l'élevage. on a négocié avec eux, bon, alors, pas le Finistère, le Gers. On est parti, on a acheté une Gasconne dans le Gers pendant 3 ans. Ça se passait super bien, ils ont fait leur ferme, ils ont développé, on leur a proposé de faire de l'éco-pâturage pour la mairie de Toulouse. Donc ils ont fait des jardins de Toulouse avec leurs animaux, et ça s'est plutôt bien passé, et le mec qui organisait ça leur a dit « Est-ce que vous voulez pas travailler avec moi? Je vous engage, on fait un CDI, je vous prends, bien payé, mais vous venez avec moi, c'est en Bretagne. »
Et voilà.
Ils ont dit oui, ils sont revenus en Bretagne, on s'est retrouvé avec une ferme dans le Gers, qu'on a revendue, on est revenu ici, et du coup, voilà, nous on est... à Le Cronan, là où vous voulez être, et eux sont producteurs de fromage de chèvre à Langonnette.
Donc il est question d'alimentation déjà.
Il était déjà question d'alimentation, et puis nous on a des enfants qu'on forme aussi depuis très longtemps, eux ils ont des idées là-dessus aussi, ils sont bien arrêtés sur le bien travailler, ils sont capables de sacrifier 15 000 litres de lait parce que le lait n'est pas ce qu'ils en voulaient, quoi. Donc pour arriver à faire ce qu'ils font, et puis moi franchement je les félicite parce qu'ils gagnent 800 euros par mois, pour travailler 70 heures par semaine, c'est dur.
Oui, bien sûr. Bah, nous, on fait souvent des sujets agricoles sur Radio Évasion, donc on le sait très bien. Xavier, alors ce cahier des charges, vous l'avez peut-être construit avec les organisateurs du festival Silence à Touille, non? Comment,
oui,
quand
il
ça
m'a
s'est
fait confiance. Christophe m'a fait confiance, alors je lui ai soumis,
alors,
évidemment. Mais ce cahier des charges, bon, il est classique. Hein. L'idée, c'est vraiment de travailler des produits bruts, de cuisiner, en fait, de remettre de la cuisine dans nos histoires. Des productions locales, évidemment. De faire attention à ces histoires de protéines. Effectivement, quand tu parles d'élevage, là, il y a des formes d'élevage qu'on peut pousser et sponsoriser. Il y en a d'autres un peu moins. Donc voilà, cette question-là, elle est forcément au cœur de ça. Comment on construit une autre, en fait, l'idée du cahier des charges, c'était aussi d'accompagner tous les cuisiniers ou les restaurateurs qui vont intervenir dans le festival, de leur dire, voilà ce que nous, on attend, et comment ça impacte ton métier, comment ça peut transformer un peu ta pratique, et on le fait ensemble.
Alors, de la formation, en fait, finalement, une sorte de mini-formation pendant le festival, enfin, ou avant.
Ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où Christophe pense à un restaurateur, welcome, mais voilà un peu le cadre dans lequel tu... Alors, si ça ne correspond pas à ta pratique, comment on peut faire pour que ce soit possible demain, ou en tout cas sur la durée du festival.
Vous avez déjà un restaurateur en vue, non?
Je ne sais pas si Xavier qui s'en occupe.
Ouais.
Hein. Oui. Je vous fais entièrement confiance. Moi,
Il y en aura vraisemblablement plusieurs. Ouais. Parce qu'il y a deux parties. Il y a les repas à assurer, avec des thèmes, et puis le cahier des charges, il est là pour ça. Et puis il y aura aussi des démonstrations.
Ah,
démonstrations,
oui.
Ateliers, ouais. qui ont pour but, alors non pas d'apprendre à la cuisine, mais de prendre un thème et de le discuter avec les gens et au détour d'une démonstration.
Par exemple, alors, que ça peut être
Moi, j'aime bien le premier atelier qu'il nous a proposé. Moi, je me suis dit, on va commencer le festival par ça, c'est bien manger, combien ça coûte.
Oui, exactement.
Bah oui. Alors
Eh bien, en fait, ce qui est drôle, c'est que moi, j'arrive avec le panier du jour. Alors, en plus, il y aura un marché de producteurs. Donc, si on peut tout trouver sur place, c'est encore mieux.
En septembre, en plus, là, ouais. C'est vraiment, en général, c'est le moment de cocagne. Là, il y a tout.
Il y a de tout.
Ouais.
Exactement.
Ouais.
Et du coup, moi, je fais mon marché avec des petites notes. Je marque combien ça coûte. Et à partir de ça, je décline une recette ou un menu en fonction de ce qu'on aura trouvé. Et puis pendant une heure et demie, on cuisine. Alors j'explique aussi tout simplement, hein, pourquoi on fait ça. Et puis je réponds aux questions. Donc il y a une animation. Et bien, mais la fin de l'atelier, c'est effectivement, on commence à rentrer dans le détail du coût d'une assiette. Donc on a le coût des matières premières. On sait le nombre de repas qu'on a fait avec. On sait combien coûte une structure de restauration pour une heure et demie de travail dans pour nourrir tant de personnes.
Oui, on évalue le temps, le coût du temps qu'on passe, bien sûr.
Et il y a une dernière inconnue, ouais. C'est le coût du travail.
Oui, c'est ça, ouais.
Donc en gros, les règles de base, c'est un tiers de matière première, un tiers de coût de structure et un tiers de coût du travail. Grosso modo, hein, ça peut varier évidemment selon le type de restauration. Et ce dernier tiers sur le coût du travail, moi, je le traduis en coût horaire, charge comprise. Et plutôt que de dire voilà combien ça coûte, je leur demande combien vous pensez qu'un cuisinier qui travaille, comme je vous l'ai expliqué pendant une heure et demie, doit gagner à la fin du mois. Et donc c'est le public qui décide de la rémunération mensuelle du cuisinier, que je traduis en coût horaire, évidemment, et que je rajoute au coût de l'assiette.
Donc c'est plus un atelier pour faire comprendre aux gens le coût du restaurant que le coût de ce qu'ils vont cuisiner chez eux.
Ouais.
On est d'accord.
Oui, ça.
Ouais.
Exactement.
Ouais. Parce que chez eux, évidemment, il n'y aura pas rémunération du cuisinier.
Sauf qu'ils auront
et
pas.
Et le coût de la structure. Enfin, si, à la limite, l'amortissement des équipements de cuisine.
Alors par contre, ils pourraient quand même repartir avec une idée du coût du plat, parce qu'on aura les coûts d'achat au marché, le nombre de repas qu'on peut faire avec, si on est 15 à table, si on est 4 à table, voilà ce que ça coûte en matière première, ça ils l'auront. Mais après, c'était aussi de reconstruire le coût réel d'une assiette au restaurant et avec tous les coûts qui sont derrière. C'est-à-dire que, en général, je gagne très bien ma vie dans ces ateliers-là parce que la façon dont on travaille justifie une rémunération correcte. Quand on le traduit en coût horaire et qui s'aperçoivent que le coût de l'assiette est sacrément impacté par le coût du travail, ouais. Là, ça commence à faire réfléchir. Mmh. Et la deuxième question qui vient à la fin de cet atelier, c'est, alors oui, on a imaginé le coût du cuisinier, mais est-ce que les matières premières que vous avez achetées payent le
producteur, Oui, bien sûr.
Et on revient à la question de tes enfants,
oui.
Christophe. Et cet atelier-là, j'avoue qu'il est... Il est assez poignant parce qu'à la fin, il y a une prise de conscience assez forte. Et en même temps, on a montré que ce n'était pas si compliqué que ça de faire bien manger.
D'accord. C'est efficace. Et donc, d'autres ateliers comme ça,
Christophe? Ah oui, moi j'aime bien sur l'atelier, ne serait-ce que l'atelier sur la découverte des poissons de Cornouailles. Il y a des poissons, moi j'ai l'habitude du marché, donc j'adore ça. Moi je vais toujours, je regarde les prix les moins chers.
Ah oui,
et
moi
si
aussi.
Je ne connais pas, je dis, j'en veux, et dites-moi comment je dois le cuisiner. Et je me régale, moi j'ai découvert les tacos, j'ai découvert des poissons comme ça, parce que je ne les connaissais pas. Mais c'est toute une éducation, une ouverture d'esprit, une volonté de faire les choses un peu autrement, quoi. Et puis on peut manger très bien pour pas cher, quoi. Ouais. Et je me suis rendu compte depuis très longtemps que je paye moins cher quand je vais au marché que quand je vais au supermarché.
Oui, du moment qu'on est curieux et qu'on ose. Et donc, ce festival, vous attendez à peu près combien de visiteurs? Parce que c'est pour savoir par rapport au nombre de gens qui vont manger aussi, puis les bénévoles, etc.
Comme on voudrait que les choses soient bien faites, les jauges des repas, c'est pas plus de 100 personnes. Pour les films, c'est 200. Parce que la salle, en plus, la salle pour les projections, c'est 200 personnes. Mais pour les jauges repas, c'est pas plus de 100 personnes, parce qu'on pourrait pas, de toute façon, les mettre. Et puis, ça n'aurait pas de sens de mettre plus de gens, quoi. C'est pas... Alors après, sur les trois jours, je ne peux pas vous dire. Ouais, il y a le marché, il y a plein de choses comme ça.
Il y aurait quoi? Un repas par jour, sinon, pour le public, c'est ça?
Il y aura deux repas par jour.
Ah, deux, ah ouais,
midi et soir. Mm-hmm. Et après, c'est des dégustations et des ateliers, donc il y aura pas mal de choses aussi à déguster à côté, quoi. Donc.
Et les bénévoles, combien? Ouais, à peu près, vous comptez sur combien?
Le plus possible.
Ouais, bah là, on lance un appel, d'ailleurs.
Un appel tous les gens qui veulent venir bénévoles du festival. Il n'y a pas de problème.
Très bien. Xavier,
ouais. Ouais, juste pour terminer sur les ateliers, le principe qu'on a acté aussi, c'est que l'université n'intervient jamais seule, sauf sur le premier atelier, mais après, on intervient toujours en invitant un acteur de la filière dont on parle. Pour les poissons oubliés, on a envie de contacter le comité des pêches, naturellement, qu'on connaît déjà, et ce serait une occasion de travailler ensemble avec eux sur ces questions-là, de la ressource halieutique, mais aussi de la pêche abondante, de celle qu'on ne mange pas et qui est disponible. On fait un atelier aussi sur les céréales et les produits et les œufs. Et on invite, par exemple, le comité Sauve qui poule, qui est une association nationale qui milite pour une prise en compte différente des élevages de plein air, des autres élevages. Parce qu'aujourd'hui, voilà...
En ce moment, avec la grippe aviaire, en plus, il n'y a plus d'élevage en plein air, tout simplement.
Exactement. Alors, et on est en train d'abattre des cheptels entiers sains. Et donc... Une mesure identique pour des pratiques qui sont radicalement différentes. Et voilà, c'est l'occasion d'inviter des collectifs comme ça aussi à travers la recette, à parler du contexte. Et que alors souvent, on attire des amoureux de la cuisine et de la gourmandise dans ces ateliers-là. Là, c'est l'occasion aussi de remettre un petit peu le contexte et que bien manger, ça a aussi des implications en amont et qu'on ne connaît pas forcément. La Fédération des races locales sur les questions des protéines animales, qui est une des fédérations d'éleveurs qui dit mangeons moins de viande, mais mieux.
Ça existe, bien sûr.
Mais mieux. Voilà, encore une fois, à chaque fois, c'est l'occasion aussi de remettre le cuisinier ou la cuisine au juste niveau. Et non pas sur l'estrade comme étant le démonstrateur ultime de quelque chose de génial. Non, je peux rien faire sans les autres acteurs de la filière, donc on les amène avec nous sur ces moments-là.
C'est l'occasion de faire de la politique, comme toujours, bien sûr, aussi.
Eh oui.
Tout est politique,
c'est
surtout
ça.
En
Nous,
ce moment.
C'est ce qu'on dit toujours sur Radio Évasion, c'est que tout est politique. Et donc, c'est comme vous avez à l'USPG, l'Université des sciences et pratiques gastronomiques, vous avez l'expérience, en plus d'avoir aidé un autre festival dont on a parlé, le festival de cinéma aussi, mais de Douarnenez, qui n'était pas spécialement sur la thématique alimentaire, mais la dernière fois, on avait soulevé la question de est-ce qu'il y a assez de producteurs, parce que c'est un volume quand même, un festival.
Exactement.
Est-ce qu'il y a assez de producteurs locaux pour contenter tout le monde, enfin voilà, c'est ça.
Alors sur ce festival à Locronan, effectivement la jauge est très différente, donc il n'y a aucun souci. Et puis en plus on a des thèmes très différents, donc un jour on va vraiment avoir besoin de la filière végétale, après la filière plutôt animale. Mais donc sur Locronan, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, on est en pleine préparation de la régie 2022 du festival de Douarnenez. Et le constat, il n'a pas beaucoup évolué depuis la dernière émission, c'est-à-dire qu'on va avoir du mal à trouver tout en local, en bio, en sourcé, en signe de qualité, en plus en restant dans une économie pour le festivalier compatible avec son porte-monnaie. Et encore une fois, ce n'est pas très grave, mais comment on fait de ce constat-là un affichage pour que tout le monde s'empare de cette question-là? Il n'y a rien de pire que de faire une promesse qu'on ne tient pas, ou de faire une fausse promesse, et de faire croire qu'on y arrive alors que la réalité est tout autre. Non, non, très compliqué aujourd'hui, y compris quand on veut rajouter, quand on veut remplacer la viande par des protéines végétales, de trouver des protéines végétales de qualité, en quantité, en Bretagne. Voilà,
c'est ça, ouais. Et même si on cultive des lentilles en Bretagne,
même si on cultive des lentilles, oui, tout à fait. Et on va en trouver, mais on va pas manger des lentilles toute la semaine non plus. Si tu veux bien, Véronique.
Je crois qu'il y a même un mec qui produit des ananas en Bretagne maintenant.
Ah ouais. C'est fort possible. Avec le changement climatique, il va y avoir un changement, c'est sûr. Ouais.
Mais voilà, c'est le constat, c'est faire manger 600 personnes par jour à Douarnenez, ça demanderait, deux fois plus d'installations dans des produits de qualité avec des tailles différentes aussi, puisque là, c'est marrant parce qu'à Le Cronan, on peut travailler avec des maraîchers au sens du maraîchage en Sud Finistère, donc des petites tailles très diversifiées. Là, c'est tout à fait compatible. Quand on passe à 600 couverts par jour, les maraîchers ne peuvent plus fournir. On a besoin de légumiers, qui sont plutôt la tradition du Léon. Oui, sauf que même dans le Léon, ils doivent fournir pour tellement de monde que ça ne suffit pas. Donc, ça permet de poser la question aux institutions, aux élus, aux festivaliers, de dire comment on fait pour s'organiser autrement pour que l'année prochaine, ce soit un peu mieux.
Alors Christophe Casassa, je le disais en intro, c'est ce festival Silence Satouille, c'est un festival engagé, donc on le voit par le biais de ce partenariat avec l'Université des sciences et pratiques gastronomiques, et avec d'autres partenariats peut-être
Ah, les partenariats.
Lesquels?
Non, je vous dis, on aurait pu faire comme à Dijon il y a quelques années,
ouais, voilà, tout délégué,
une régie,
là, ouais.
Et puis délégué, mm-hmm. Et puis on est tranquille, on ne s'occupe pas. Évidemment, c'est compliqué, de l'instant où on est engagé, c'est compliqué. C'est d'aller chercher de l'argent, hein. Faut faire comprendre un peu ce que c'est. Mais il faut arriver à avoir une démarche avec les gens et leur faire comprendre que l'argent qu'ils vont donner, il est bien placé. Ils vont faire quelque chose, c'est une bonne action. C'est pas seulement pour se mettre en valeur, c'est une bonne action aussi. Et puis ça valorise une entreprise. Moi je vois que par moment on travaille des entreprises pour des partenariats. Et en fait tous les gens dans l'entreprise sont concernés par ça. Ils sentent que leur entreprise va dans le bon sens. Donc on cherche des entreprises qui ont envie d'aller dans le bon sens aussi et qui ont envie de participer au festival. Et on en trouve. Hein. Il y a
des
gens
qu'est-ce que vous avez trouvé déjà pour l'instant?
Les Japonais de
Makurazaki
qui sont super, qui font le moi je alors moi je suis un
qu'est-ce
malade.
Qu'ils font? Ils produisent des algues, non? C'est ça?
Ils produisent de la bonite, séchée, le fameux katsubochi qu'on c'est utilise dans les bouillons japonais. Mmh. Et moi je fais des bouillons japonais depuis des années. J'achète ça, c'est compliqué à trouver. Et j'arrive ici en Bretagne et je m'aperçois qu'il y a à même pas une demi-heure de chez moi, il y a des gens qui produisent ça. Et c'est génial, quoi. Donc et puis c'est des gens qui sont investis. On sent, quand on visite l'usine, on s'y sent bien, quoi. On a envie presque envie d'y travailler, quoi.
Ils sont à quel endroit, d'ailleurs?
Ils sont à Concarneau, c'est ça.
Ouais, c'est les Japonais de Concarneau, ouais. C'est ça. Qui d'autre encore comme partenariat intéressant?
Je ne sais pas. Les Whisky et Doux nous ont répondu qu'on pourrait travailler avec eux, donc on pourrait faire une dégustation de whisky. Donc on a un film qui s'appelle La part des anges de Ken Loach.
Ah, formidable.
On va louer et qui servira d'architecture à l'après-midi de dégustation de whisky avec Edou.
Après, la pêche n'est pas encore très fructueuse. Chaque atelier nécessite qu'on 500 euros pour participer au financement de la matière première, du déplacement du cuisinier, l'organisation, etc. Chaque atelier, aujourd'hui, les ateliers ne sont pas encore financés. Mais toute la question est effectivement de travailler, de voir qui a intérêt à s'afficher avec nous sur cette thématique-là. Et encore une fois, nous, on n'a pas d'a priori. Tout est une question d'envie mutuelle et d'objectifs partagés. On pourrait dire non à l'agroalimentaire, par exemple. Parce que je l'ai souvent dit ici, ça pose problème. C'est une vraie question. Sauf que dire l'agroalimentaire dans son ensemble, ça n'a pas de sens. Par contre, de travailler sur un atelier sur la viande avec la Fédération des races locales et un industriel local aussi qui se pose des questions sur sa pratique, encore une fois, qui se pose des questions et qui, avec ses salariés, cherche des solutions, pourquoi pas? Pourquoi pas se rencontrer et afficher ensemble une volonté de ne pas dissocier les problématiques. La problématique de l'agroalimentaire, c'est mon problème moi aussi. C'est le problème des cuisiniers. Donc, et si on arrive à se rencontrer là-dessus, 500 euros, c'est franchement pas grand-chose pour un atelier. Non.
Et à part les partenariats alimentaires et de l'ordre de la boisson, qu'est-ce que vous avez comme partenaire que vous cherchez, hein, aussi, profitez-en.
En fait, on aura aussi un petit marché de producteurs et de, je voudrais faire un petit, donc producteurs et libraires ou auteurs de livres de cuisine qui seraient un peu associés sur le même stand. Donc ça, j'aimerais bien trouver des libraires, des éditeurs qui ont envie de rentrer dans l'histoire, dans qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme partenariat? Non, toutes sortes de partenariats, donc...
C'est vrai qu'on a, aussi pensé aux institutionnels,
ouais.
Qui pourraient... voilà. Donc voilà, il y a des discussions qui sont engagées avec Finistère 360, plutôt sur la partie communication, et ça me semble pertinent.
Ils sont bien engagés déjà, ouais.
Il y a l'Office de tourisme de
il faut
aujourd'hui de
tout accord, ouais. Ouais, voilà.
Il faut qu'on rencontre aussi.
Il faut qu'on rencontre et qui est déjà au courant de l'existence du festival et qui a très envie d'en savoir plus. Donc voir effectivement comment ça participe à la dynamisation et à la programmation sur septembre des offices de tourisme.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi cette opération française qui est sur le goût, place.
C'est quoi la semaine du goût? Donc comment ça s'appelle?
Je ne sais plus comment ça s'appelle.
En fait, c'est dans le cadre du plan de relance. Il y a toute l'année de la gastronomie.
Ah mais oui, on en a parlé.
Propose
on
quatre appels à projets auxquels on pourrait répondre. Quatre appels à projets, quatre saisons. Et donc on tomberait sur le début de la saison d'automne. Ouais. Il faut juste voir si le thème correspond à ce quatrième appel à projet.
Bon, bah très bien. Bah, on se tiendra informé de tout ça, déjà parce qu'on retrouvera l'USPG dans un mois à peu près, et puis le festival Silence ça touille, donc, qui a lieu les 23, 24, 25 septembre à Locronan, festival cuisine et cinéma, donc, et qu'on retrouvera début septembre, juste avant la première édition à Locronan. Merci à tous les deux.
Merci.